France Inter, franceinter.com.
Pour aujourd'hui, le héros de l'unité italienne, Garibaldi. Garibaldi, c'est un homme dans toute l'acception sublime du mot. Un homme de la liberté, un homme de l'humanité, un homme d'aujourd'hui, un homme de demain. Victor Hugo. Ans d'histoire. Sur tous les continents, à Paris, à Alger, à Rome, à Montevideo et bien sûr à Nice, où il est né il y a 200 ans, des rues, des places et des statues portent son nom. Car plus encore que la lutte qu'il a menée pour réunifier son pays, dans le monde entier, Garibaldi a incarné la liberté. En Amérique du Sud, où il s'est battu contre l'empereur du Brésil et pour l'indépendance de l'Uruguay, en France, où il est parti défendre la République pendant la guerre de 1870, mais aussi et surtout dans son pays, en Italie, contre les Autrichiens, contre le pape et contre le roi de Naples, lorsque le 11 mai 1860, Garibaldi se lançait en Sicile, dans une des entreprises les plus audacieuses de son épopée. Avec une poignée de volontaires vêtus de chemises rouges, il allait rendre à l'Italie un royaume dont elle était séparée depuis des siècles.
Garibaldi si è imbarcato stanotte a Quarto con 1000 volontari su due piroscafi trafugati da Bixio alla Rubattino, punto. Pare che il generale voglia far vela per la Sicilia, punto. Invierò del...
Un acte de piraterie a été commis le 11 mai. Une bande d'hommes armés a débarqué sur la côte de Marsala. D'après les derniers renseignements, cette bande qui comptait environ 800 hommes est commandée par Garibaldi.
Garibaldi !
C'est la révolution.
Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Et l'on entend l'hymne national d'un pays qui n'a été réunifié. On oublie parfois qu'au 19e siècle, et en grande partie grâce à celui dont vous venez d'écrire la biographie chez France Empire, Garibaldi qui est né le 4 juillet 1807 en France, à Nice, à l'époque où elle était française.
Exactement. Nice était française, mais par, si j'ose dire, la grâce de la Révolution et de l'Empire, elle avait été annexée. En fin de compte, le comté de Nice appartenait au royaume de Sardaigne avant la Révolution. Et bien sûr, elle reviendra en 1814-1815 à la Sardaigne. Ce qui crée l'ambiguïté pour ce malheureux Garibaldi, né entre deux chaises, entre deux nations, la France et la Sardaigne.
Et finalement, italien, donc, dans un pays, dans une Italie, on l'oublie aussi, qui est très profondément divisée à l'époque.
Absolument.
Soit divisée, soit occupée. Le Nord, la Lombardie et la Vénétie sont occupées par les Autrichiens. Et puis divisée en plusieurs États. Il y a le Piémont, qui est très indépendant lui-même. Il y a les duchés de Parme, de Modène et de Toscane. Il y a aussi les États du pape. Le pape est souverain, est un souverain temporel aussi en Italie.
Tout à fait.
Et puis tout à fait au sud, la moitié sud de l'Italie, c'est le royaume des deux Siciles. Alors, une division que refusent les patriotes italiens, un mouvement national qui émerge, qui se développe au XIXe siècle, et qui est divisé en deux, Guy Gauthier, deux tendances.
C'est vrai. Tous ces gens-là veulent, tous les patriotes italiens veulent l'unité de l'Italie. La question est de savoir comment la faire et sous quelle sorte de régime. Alors, il y a les républicains très idéalistes, n'est-ce pas, qui veulent tout raser. Et puis, il y a au contraire les monarchistes libéraux qui considèrent qu'on ne pourra pas, on ne pourra faire l'unité italienne qu'à partir d'une dynastie la plus importante à l'époque, patriote, la dynastie de Savoie.
Oui, c'est-à-dire le royaume de Piémont.
Tout à fait, Piémont-Sardaigne.
D'autant plus qu'il se montre très patriote, parce qu'au sud, le roi de Naples, le roi des deux Siciles, ne l'est pas beaucoup, il n'a pas tellement envie de cette unité. On avait aussi envisagé le pape, mais le pape Pie IX, finalement,
On l'a cru révolutionnaire, mais en fin de compte, non, il n'était pas le Bonaparte que l'on croyait.
Alors lui, Garibaldi, il est carrément, il est républicain. Il est avec Mazzini dans un mouvement qui s'appelle Jeune Italie.
Exactement. Hein. Un mouvement très révolutionnaire et qui veut l'instauration de la République. Mmh. Mais là, on s'entendra tout à l'heure sur ce que signifie ce mot et ce qu'il recouvre à la fois pour Garibaldi, pour Mazzini, car ce n'est pas tout à fait la même chose.
Alors, il milite hein, activement. Il va même faire tenter un coup de force sur l'arsenal de Gênes, oui. Si bien qu'il devient hors-la-loi. Oui. Et il est littéralement chassé d'Italie. Et il va partir, c'est une période qu'on a un peu oubliée justement de sa vie, 13 ans en exil en Amérique latine et en fait c'est là qu'on va commencer à entendre parler de lui, Guy Gauthier.
Il est chassé, plus précisément, il est condamné à mort par contumace dans ce complot dans lequel l'a trempé un peu inconsciemment Mazzini, donc il fuit l'Europe et il se rend en effet en Amérique latine au Brésil, où il sera accueilli par la communauté des jeunes Italiens patriotes et aussi par les francs-maçons. Car il sera très vite franc-maçon, ça c'est un aspect important de sa carrière, oui. De sa vie. Et effectivement, il va se battre pour une des provinces du Brésil. Le Brésil est un empire immense et il y a une province, le Rio Grande du Sud, qui veut s'affranchir de la tutelle de l'empire. Et il va se battre pour le Rio Grande, en pensant se battre pour l'humanité. En réalité, un siècle et demi après, on voit les choses en détail. L'empire du Brésil était beaucoup plus libéral, beaucoup plus évolué que le Rio Grande, en tout cas les gens qu'il dirigeait. Mais il a commencé son épopée effectivement dans ces batailles du Rio Grande. Et c'est là surtout qu'il va rencontrer sa femme Anita Ribeira da Silva, la grande Anita.
Il va l'enlever littéralement.
Ah, tout à fait. Il va l'enlever à son mari. Il va l'enlever à son mari. Ouais. Ils vont commettre tous les deux. Elle va commettre un adultère à cause de lui. Mmh. Il en prendra la faute. Il en prendra la responsabilité devant l'histoire. Et puis plus tard, quand ils vont se réfugier à Montevideo parce que la République du Rio Grande va tomber, n'est-ce pas, Garibaldi s'en va en Uruguay, où là aussi il participera à la guerre civile du côté des Républicains. Et en Uruguay, à Montevideo, il va épouser Anita.
Et c'est là, en Amérique latine, oui. qu'il invente l'uniforme Absolument. Avec lequel il va se rendre célèbre. Les fameuses chemises
Exactement.
Rouges, il les a créées en fait
qui,
en Amérique du Sud.
Qui est en fait la tenue des saladeros, les ouvriers qui salent les morceaux de bœuf, n'est-ce pas. Mmh. Donc il en avait un stock comme cela, il a racheté tout cela et il a vêtu les soldats de la Légion italienne de cette chemise rouge que l'on retrouvera à travers l'histoire jusqu'en 1871 en France d'ailleurs.
Alors les combats qu'il va mener en Amérique du Sud pendant 13 ans le rendent oui. célèbre. Il est déjà très connu Exactement. Lorsqu'il revient en Italie oui. au moment où à la suite de la révolution de 1848 en France, voilà. Eh bien, les Italiens se soulèvent, se révoltent à Milan, à Venise contre les Autrichiens et puis à Rome où Garibaldi va proclamer la République.
De Paris, la Révolution gagna toute l'Europe. En Italie, Milan fut la première à prendre feu avec Venise.
Rome retentit cette pétarade. Garibaldi caracolait sur le janicule.
Avec de la présence, nos garibaldiens.
Et qui t'a sonné, toi ?
La République.
Ah ben parlons-en de la République, un grand bordel, oui.
Quand même, sur le moment, nous y avons cru dur comme fer.
Et oui, cette République, elle n'a pas duré longtemps, mais c'est effectivement Garibaldi qui l'a proclamée à Rome sur le janicule,
hein,
contre le pape qui, lui, s'était réfugié
c'est
à
vrai,
Gaète.
C'est vrai. Alors là, on en vient tout de suite à ce conflit, à ce duel extraordinaire sur le plan historique entre Garibaldi, franc-maçon et le souverain pontife. Il faut bien voir que la querelle fondamentale, c'est le problème du pouvoir temporel du pape. Les États pontificaux, à ce moment-là, bloquent, occupent toute l'Italie centrale. Donc on ne peut pas faire l'unité italienne, rejoindre le nord et le sud, si le pape est au milieu. Donc le schéma de Garibaldi, c'est de supprimer le pouvoir temporel du pape pour que Rome soit capitale de l'Italie, comme dans l'Empire romain.
Alors à Rome, cette révolution échoue, comme elle va échouer d'ailleurs dans le reste d'Italie.
À cause
cette
des Français.
Révolution de 48, il y a les Autrichiens au nord, oui. Qui vont battre le roi de Piémont, qui lui Charles est Albert. Partisan de la révolution, Charles Albert. Oui. Il y a aussi effectivement la France qui va jouer. Alors là, c'est pas encore Napoléon III, il est président de la République, oui. mais il envoie Louis-Napoléon Bonaparte envoie une troupe pour défendre le pape à Rome et qui va battre justement les Garibaldiens, le général Oudinot, à Rome. Alors, à nouveau, il est un réprouvé, il repart en exil pendant 6 ans. Ça, c'est une période encore moins connue, très étonnante.
On va
le retrouver à New York, où, dites-vous, Guy Gauthier, il fait la plonge.
D'une sorte de juif errant à ce moment-là.
Ah,
il fait tout, l'Amérique latine. Alors, l'Amérique latine, très important, car il rencontre, et ça c'est très symbolique, il rencontre la veuve de Simon Bolivar.
Ah, ouais.
Alors ça, la transmission du flambeau de la liberté entre Simon Bolivar et Garibaldi, c'est très important.
Il va même aller en Chine.
Exactement. Il a été jusqu'à Hong Kong, Canton, etc. Absolument. Absolument.
Ouais.
C'est un marin d'abord, n'oubliez pas. Hein.
Ouais.
C'est un fils de marin et lui-même voulait être marin. Il ne voulait pas être curé. Sa mère voulait en faire un curé, mais son père voulait en faire un marin. Il a été marin.
Et puis alors, il revient à nouveau en Italie parce qu'en 1859, il se passe une chose très importante. Le roi de Piémont, le nouveau, parce que
Victor
Emmanuel II, avec le soutien de la France, se lance dans une guerre contre l'Autriche.
Exactement.
La France va battre les Autrichiens à Magenta, à Solferino.
Et
puis alors, la France, brusquement, prématurément, signe un armistice
avec
qui rend furieux tous les patriotes italiens.
Voilà. Mais il faut rendre justice à Napoléon III, c'est que nous ne pouvions pas aller très loin, car il commençait à y avoir une mobilisation des Allemands, des Prussiens, sur le Rhin. Et l'empereur ne voulait pas trop s'engager en Italie, de peur d'avoir un second front du côté de Metz ou de Strasbourg.
Mmh.
Voilà. Mais c'est vrai que Garibaldi et Victor Emmanuel II en ont voulu terriblement à Napoléon III, qui avait promis tout de même, c'est vrai, de libérer toute l'Italie du Nord jusqu'à Venise, n'est-ce pas?
Alors Venise, justement, reste autrichienne, sous domination autrichienne. Et puis tout le sud de l'Italie, les états du pape restent au pape.
Mm-hmm.
Alors il y a quelque chose qui rend encore plus furieux Garibaldi, c'est qu'en échange de l'aide que Napoléon III a apportée au roi de Piémont, eh bien celui-ci a dû donner sa ville natale à la France. C'est en 1860 que Nice redevient française ou devient française.
Il y a eu deux choses importantes. Effectivement, Nice redevient française. Le Piémont à la France, mais aussi, alors ce qui est important, vexant, très vexant pour Garibaldi, qui est quand même, il faut le dire, italien, clairement. Hein, et aussi la Savoie, n'oubliez pas que la Savoie, qui était le berceau de la famille royale, a été donnée à la France aussi.
Mmh.
Et le roi Victor Emmanuel II disant à Garibaldi, de quoi te plains-tu? Parce qu'ils se tutoyaient, c'était des copains, vraiment des frères d'armes. Toi, tu perds ta ville natale, mais les Garibaldi n'ont pas toujours été à Nice, alors que moi, je perds la Savoie, où mes ancêtres sont là depuis un millier d'années.
Il faut rappeler que c'est à la suite d'un plébiscite qui a été favorable au rattachement à la France, aussi bien à Nice qu'en Savoie. Vous avez l'air un peu sceptique.
Que Garibaldi a contesté en disant qu'il avait été trafiqué par les prêtres, notamment.
En tout cas, cette unité italienne dont il rêvait, eh bien, elle est vraiment, c'est rien du tout. Hein. Plus de la moitié de l'Italie reste soit sous domination autrichienne, soit séparée du reste de l'Italie. Et c'est le cas, justement, du royaume des deux Siciles, la moitié sud de la péninsule italienne. Lorsqu'en mai 1860, Garibaldi, qui est au Piémont, profite d'une révolution à Palerme pour se lancer dans une aventure extraordinaire, l'expédition des mille chemises rouges qui vont débarquer en Sicile le 11 mai 1860.
Avanti, chi è?
Guardi questo telegramma.
Regardez un télégramme.
L'insurrezione vinta nella città di Palermo resiste nelle province.
Insurrection réussie à Palerme, résistance
Partiamo
en province.
Subito.
Alors allons-y au plus vite.
Dovrai correre a prendere contatti.
Prends contact avec l'armateur pour les bateaux. Rassemblez les hommes.
Raccogliete
avec
gli
l'aide
uomini.
Du destin, nous
Se
embarquons demain.
Sarà favorevole, domani stesso partiremo, imbarcheremo.
A quarto.
A quarto.
Va, vanino.
Scusate, è urgentissimo, stampa.
Envoyez ce télégramme.
Garibaldi
s'est embarqué avec 1000 volontaires à Quarto, à destination de la Sicile.
Nous étions au nombre de 1000, venus d'Italie et d'ailleurs. Garibaldi dans la Sicile nous conduisait en tirailleurs. J'étais un jour seul dans la plaine, quand je trouve en face de moi un soldat de 20 ans à peine, qui portait les couleurs du roi. Je vois son fusil se rabattre, c'était son droit, j'arme le mien. Il fait 4 pas, j'en fais 4, il vise mal, je vise bien.
Et c'était Le Soldat de Marsala. Marsala, c'était l'endroit où Garibaldi a débarqué le 11 mai 1860. Une chanson écrite justement cette année-là. Alors, ce débarquement, c'est une opération tout à fait extraordinaire. C'est peut-être le moment le plus connu de la vie, des aventures, de l'épopée de Garibaldi. On l'a entendu dans cette chanson qui était écrite donc à ce moment-là. Nous étions 1000 venus d'Italie. Et d'ailleurs, et vous le rappelez, Guy Gauthier, il n'y avait pas que des Italiens. Absolument. Il y avait par exemple un écrivain français.
Absolument. Il y avait des Polonais, il y avait des Français, il y avait des Suisses, des Luxembourgeois. Et il y avait Alexandre Dumas qui précisément, lui, ravitaillait Garibaldi en armes. Car il avait un yacht. Donc il croisait aux environs de Palerme et donc il apportait des armes au général Garibaldi qui était son grand ami. Et Alexandre Dumas a fait beaucoup pour Garibaldi. C'était un peu l'anti-Victor Hugo en ce sens que Alexandre Dumas, lui, était très proche, curieusement, de la maison de Savoie. Mmh. Alexandre Dumas, on dit aujourd'hui que c'est un grand républicain, c'est pas vrai, c'est un orléaniste, très proche de la famille d'Orléans. Et il voyait dans la maison de Savoie quelque chose d'assez proche de cette famille royale.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils étaient 1000, un petit peu plus, hein, 1085 ou 1087,
mais ils ont gonflé
en chemise rouge. Alors oui, mais pour partir à l'assaut d'un royaume, hein, c'est le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire tout le sud de la péninsule, plus l'île de Sicile. Et puis, il y a quand même des complicités. Au Piémont, Victor Emmanuel et Cavour, hein, son premier ministre, les soutiennent en douce, en réalité. L'Angleterre également, la France, il y a donc des appuis. Et puis, il y a la population sicilienne qui se rallie en masse derrière Garibaldi. Enfin, pas tout à fait au début. Hein, il était considéré, on l'a entendu dans un extrait, un peu comme un brigand.
Il y a eu à l'origine, si vous voulez, d'abord pour Cavour, c'était très bien d'envoyer Garibaldi, de le laisser faire en Sicile. Ça lui permettait d'oublier un petit peu l'affaire de Nice, parce qu'il voulait reconquérir Nice par les armes. Et Cavour préférait qu'il aille conquérir la Sicile. Victor Emmanuel II s'est entendu très très bien avec Garibaldi. Il était convenu entre le roi et Garibaldi que le général allait conquérir la Sicile et Naples, mais pour la maison de Savoie, c'était clair, pas pour créer une république là-bas. C'était parfaitement loyal de ce point de vue-là. Et puis ça arrangeait aussi les Anglais, car pour l'Angleterre, la Sicile, n'est-ce pas, le royaume de Naples, c'était quand même une région hautement stratégique, puisqu'elle barre effectivement la Méditerranée, elle sépare la Méditerranée occidentale de la Méditerranée orientale. N'oubliez pas que c'est Nelson qui a protégé la Sicile des Français sous l'Empire, en tournant avec la flotte britannique autour de la Sicile, n'est-ce pas, qui n'a pas été occupée par les Français, jamais.
Vous vous rappelez aussi une chose amusante, Guy Gauthier, c'est que Marsala, c'est un port à partir duquel des négociants en vin anglais amenaient du vin de Marsala vers l'Angleterre.
Mais bien sûr, il n'y a pas de miracle. C'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'il a débarqué dans un comptoir britannique, enfin commercial entre guillemets, sous protection de la flotte britannique aussi, ne l'oublions pas quand même.
En tout cas, il débarque en Sicile, il s'en proclame même le dictateur, hein, carrément.
Ça, c'est alors, déjà un problème, un très grand problème. Garibaldi est un républicain rallié à la monarchie, mais il ne croit pas du tout à la différence de Cavour, et c'est ça, sa haine véritablement pour Cavour.
Le premier ministre
Avec l'affaire de Nice, c'est que ça n'est pas du tout un partisan du régime parlementaire. Il considère que les députés sont tous pourris, et que l'Italie doit se faire avec le roi. Roi et le dictateur, n'est-ce pas, il re et il dittatore, ce qui se fera hélas un siècle plus tard dans d'autres circonstances.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il conquiert la Sicile, qu'il en devient le dictateur, puis traverse le détroit de Messine, au nom du roi, traverse le détroit de Messine, s'empare de Naples, au nord, le roi de Piémont qui se frotte les mains, lance une expédition militaire vers le sud, soi-disant pour arrêter Garibaldi, l'empêcher de prendre Rome. En réalité, au passage, il rafle deux ou trois des états du pape, la Romagne, les Marches et l'Ombrie. Voilà. Et puis alors, c'est la rencontre entre ce roi de Piémont qui devient roi d'Italie, et puis c'est une rencontre célèbre, et puis Garibaldi qui, lui, vient du sud et qui remet entre les mains des rois, du roi...
Ateano, absolument.
Ateano, qui lui remet tout simplement la moitié sud de l'Italie.
Come state, caro Garibaldi?
Bene, maestà. Et vous?
Comment allez-vous, cher Garibaldi?
Sire. Quando ho toccato il suolo siciliano,
Sire, j'ai pris la Sicile et assumé la dictature en votre nom. Je réalise aujourd'hui mon vœu le plus cher. Je vous remets le pouvoir sur des millions d'Italiens tourmentés jusqu'ici par un despotisme féroce.
Ecco Vittorio Emanuele, il nostro re, re d'Italia.
Vittoria,
Alors cette rencontre à Teano entre Victor Emmanuel II, roi d'Italie, hein, ça y est, et Garibaldi, elle est célèbre, elle est extraordinaire. C'est un républicain qui reconnaît en Victor Emmanuel II le roi d'une Italie presque tout entière réunie.
C'est la grande fraternité d'armes qui se confirme entre ce républicain socialiste aussi, mais pragmatique. Et ce roi extrêmement ouvert aux idées libérales, ça c'est très très important, et c'est ce qui fera l'Italie pendant un siècle. Au détriment quand même d'une chose, il ne faut pas l'oublier, vous parliez de l'enthousiasme populaire en Sicile, à Naples. Les gens ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme Garibaldi parce qu'ils pensaient qu'il allait faire une république sociale, ou en tout cas qu'il allait arracher la terre aux nobles pour la, donner, pour la donner au peuple, ce qui n'a pas été fait, au contraire. Et on voit, n'est-ce pas, cette espèce d'abus de confiance dans le fameux Guépard d'ailleurs où on en parle. En fait, l'aristocratie s'en tire très bien. Et le peuple restera dans la misère, hélas.
Alors, presque toute l'Italie est réunifiée. Il manque quand même Venise, qui est encore entre les mains de l'Autriche jusqu'en 1866. À ce moment-là, elle est rattachée à l'Italie. Et puis Rome. Alors, Garibaldi, il est têtu. Rome, il veut que ce soit Rome, la capitale de l'Italie, non pas Turin, puis Florence, comme ça a été le cas. Ça devient, ça doit devenir Rome. Et alors là, il se heurte d'une part au refus du roi d'Italie qui ne veut pas se fâcher avec la terre entière, et également au refus de la France. Il va tenter à deux reprises de s'emparer de Rome, Guy Gauthier.
Il va le tenter en 1862, effectivement, où là, il débarque de nouveau en Sicile, qui est cette fois italienne, n'est-ce pas ? Il va repasser le détroit de Messine. Avec la complicité de Victor Emmanuel II. L'accord entre le roi et le général, c'est très simple, n'est-ce pas ? Tu tentes le coup, si ça marche, la maison de Savoie, l'Italie donc, récupère la mise. Si tu rates, tant pis pour toi. Bon. Et devant la consternation internationale, l'opposition de la France, le roi d'Italie va devoir empêcher Garibaldi de monter jusqu'à Naples et à Rome, et on va le bloquer à Aspromonte. Il va être blessé gravement à Aspromonte par le général Pallavicini, et il sera enfermé ensuite dans une forteresse, et puis amnistié très rapidement parce qu'il y a une complicité des Italiens sur le dos des Français.
Mais il va recommencer en 67, alors là c'est pas là c'est la France qui va l'en empêcher, il va y avoir une bataille.
Que Napoléon III se méfie, Napoléon III a besoin des catholiques français, n'est-ce pas ? C'est normal, il a été élu aussi par les catholiques, il a l'opposition royaliste, donc il faut qu'il ménage tous ces gens-là. L'impératrice Eugénie est extrêmement catholique, ultramontaine même, n'oubliez pas que le pape est le parrain du prince impérial. N'est-ce pas ? Et Eugénie dit à Napoléon III, si le pape est chassé de Rome, moi je quitte les Tuileries avec mon fils. C'est l'éternel chantage.
Alors Napoléon III, qui a tellement aidé l'unité italienne, empêche son achèvement.
Oui, absolument. Il s'oppose à la destruction du pouvoir pontifical. Il envoie les troupes et Garibaldi est battu à Mentana par les zouaves pontificaux, qui eux aussi sont une brigade internationale catholique, et puis par l'armée française du général De Failly. Nos chasse-pots ont fait merveille, etc.
Les chasse-pots, c'était les fusils.
Exactement. Et ce qui a profondément blessé les Italiens. Victor Emmanuel II, on a voulu beaucoup à l'empereur, au général De Failly, de cette phrase.
Alors en fait, Garibaldi est mis à l'écart. Il vit dans la moitié du Nil, à Caprera, au nord de la Sardaigne. Il vit replié, un peu sur lui-même. C'est un peu un patriarche. Puis il est plus
patriarche. Il est plus très jeune. Il est très malade. Il a son arthrite qui le blesse considérablement.
Si bien que c'est sans lui, mais avec ses partisans, que s'achèvera l'unité italienne lorsque Victor Emmanuel II s'en emparera en septembre 1870, profitant d'ailleurs du fait que la France, à ce moment-là, l'Empire français qui défendait le pape, il a disparu.
Tout à fait.
Victor Emmanuel, ça y est, il s'est décidé. 35 000 hommes avancent dans les états pontificaux en direction de Rome. Il y a 5 divisions, dont 2 ont été confiées à des ex-garibaldiens, Bixio et Cosenz.
Oui, mais Garibaldi...
Oui, Teresa.
Ici, on raconte que...
C'est vrai, il est en exil. Et c'est aussi pour cela que je suis ici.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ce chahut?
Il se passe que c'est la révolution. Tu sais, maman, les Piémontais sont entrés dans la ville.
Alors tout le monde a sorti des drapeaux, des bannières. On est entièrement pavoisé. À toute volée, les cloches sonnent. À toute folie.
Et et c'était la prise de Rome par l'armée piémontaise en 1870, l'achèvement de l'unité italienne. Garibaldi, qui a participé à toutes les étapes de cette unification de l'Italie, n'était pas présent à la dernière. Il y avait ses partisans, on l'a entendu.
Il n'y est pas, c'est ce grand paradoxe de l'histoire, il n'y est pas. Il est à Caprera à ce moment-là, il ne participe plus à la vie politique italienne qu'il méprise profondément à cause du parlementarisme essentiellement.
Alors, il la méprise peut-être, mais alors, il continue de se battre. Où est-ce qu'on va le retrouver quelques mois plus tard, à peine en France.
En France.
Là, il va même remporter une des seules victoires qui se soit produite pendant la guerre franco-prussienne. En 1870, la République a été proclamée et Garibaldi vole à son secours.
Oui. Alors, ce qui facilite les choses, si j'ose dire, c'est que l'empereur est tombé. Oui. Il a une grande haine contre Napoléon III qui a protégé le pouvoir pontifical. Et en 70, après la chute de l'Empire, il se propose à la France... il vient pour se battre pour nous. Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que même la gauche française, Gambetta, etc., se disait Garibaldi est un personnage sulfureux. Et il ne va pas être très bien accepté par l'armée régulière française, qui se bat toujours et qui est composée quand même essentiellement de catholiques. Hein. Bon. Donc ça pose problème, parce que Garibaldi, c'est l'antéchrist. Mais bon, quand même, on l'accepte. Il est général de division, il a son armée, hein. C'est l'armée de l'Est qu'il va diriger. C'est quand même extrêmement intéressant de voir comment il va se battre, et assez brillamment.
Il va même être élu député, hein, français, mais je crois que ça a été invalidé par l'Assemblée nationale qui a suivi. Et puis, il va à nouveau se retirer à Caprera, où il meurt en 1882. Il n'a pas soutenu la Commune, je crois que son fils en a fait partie.
Alors, c'est tout un problème de la Commune, absolument, son fils en a fait partie. Lui considérait, c'est toujours l'obsession de Garibaldi, ça, malheureusement, il faut le dire. Il a dit tout de suite, d'abord la Commune c'est une affaire entre Français, je ne veux pas trop m'en mêler, mais de toute façon elle n'en sortira que si on nomme un dictateur. Ça a toujours été son problème. Il pensait qu'il fallait un homme ayant tous les pouvoirs civils et militaires dans la Commune, une sorte de, je sais pas, de Robespierre ou de Bonaparte, pour remporter, pour gagner sur Versailles. Mais vous savez que malheureusement ce n'est pas le cas.
Alors, il meurt en 1882 à 75 ans, mais alors très présent, il a continué à être très présent dans la mémoire des Italiens, même d'ailleurs dans le reste du monde, on se souvenait ce qu'il avait fait un peu partout, mais sa mémoire, disons, est défendue par des gens très différents, aussi bien par les républicains italiens que par Mussolini, qui considérait que c'était un héros.
Ah oui. Mais la question, effectivement, qui est un peu ennuyeuse, c'est que Garibaldi est un personnage paradoxal. C'est un vrai républicain et, je pense, un vrai socialiste. Il a d'ailleurs beaucoup de remords à la fin de sa vie. Il meurt avec ce remords de n'avoir rien fait pour la question sociale. Parce qu'au fond, cette Italie qu'on a faite, c'est l'Italie de la bourgeoisie et même, d'une certaine manière, de l'aristocratie. Et ça lui a posé problème. Mais il y a chez lui ce côté négatif, entre guillemets, peut-être, effectivement, son anti-parlementarisme, son appel constant à la dictature, son anticléricalisme, des choses qui ne sont pas très, très bien acceptées. Et puis, à la fin, l'impérialisme, tout de même. Lorsque la France occupe la Tunisie, il est furieux, il fait une campagne de nouveau contre la France, et ça, c'est un véritable problème.
On verra quand même plus tard des brigades Garibaldi auprès des républicains espagnols.
Il y a eu les deux. Vous avez aussi des garibaldiens qui ont voulu, dans les années 40, s'emparer de Nice. Ouais. N'oublions pas cela non plus, hein, c'est la période de...
Une envergure internationale. Il fait penser un peu, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont dit, Guy Gauthier, à Che Guevara au 19e siècle.
Oui, encore que je ne suis pas certain que Che Guevara se serait allié avec une monarchie. Encore qu'on a vu, il y a quelques années, Fidel Castro embrasser le roi d'Espagne. Donc tout est possible dans l'histoire.
En tout cas, un personnage fascinant que l'on retrouve dans votre biographie, Guy Gauthier, qui a été publiée aux éditions France Empire, Garibaldi, l'aventurier de la liberté. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Viva l'Italia de Roberto Rossellini, édité en DVD par Opening, Le Guépard de Luchino Visconti, disponible en DVD aux éditions Pathé, Au nom du pape roi de Luigi Mani, et un extrait du téléfilm Rome libérée 1870 d'Alfredo Gianetti. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Ludovic Asselot. Documentation, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.